Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre rendez-vous pour Cinéphile Insomniaque. Bienvenue dans Somniloque. Un épisode qui commence par une annonce un peu douce-amère. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai toujours été très transparent avec vous, avec tous les gens qui ont pu me suivre. Somniloque touche bientôt à sa fin. Et je dis douce-amère parce que si c'est ce format que j'ai beaucoup apprécié faire et que je vois qui a été globalement apprécié aussi par les gens qui me suivent, touche à sa fin, c'est justement parce que les salles de cinéma vont bientôt rouvrir, qu'a priori les annonces gouvernementales semblent le confirmer, qu'a priori les mouvements de datation des films semblent suggérer que c'est effectivement la date du 17 mai qui s'annonce comme enfin la réouverture des salles, et que cette parenthèse, ce moment que l'on partageait entre nous, ce petit besoin d'émerveillement cinématographique, ce petit instant de rêverie qu'on prenait ensemble pour discuter de cet art qui nous fait vibrer, de notre passion, en fait, à vous, à moi, eh bien, j'ai l'impression qu'il n'aura plus la même utilité lorsque le vrai lieu d'expression de cet émerveillement, lorsque le vrai lieu où le rêve est possible aura rouvert, notre lieu de culte à nous, la salle de cinéma. Eh bien, il sera peut-être plus intéressant pour nous de nous y plonger, de nous retrouver là-bas enfin ensemble, de sortir un petit peu de cette détresse, de cet enfermement et d'aller vibrer à l'unisson, déjà à cause de ce qui se passe à l'écran, mais aussi ensemble. Et retrouver ce qu'il y a ensemble, c'est le plus important. J'ai l'impression qu'avec Somniloque, nous sommes arrivés au bout d'une démarche et qu'il est nécessaire, lorsqu'on a l'impression d'avoir non pas fait le tour du sujet, parce que le cinéma est tellement vaste qu'on ne peut pas faire le tour du cinéma, mais le tour d'une certaine façon d'en parler, d'y mettre un terme, que c'est la bonne solution et qu'il n'y aura donc en tout que 20 épisodes de Somniloque, qui sera donc un podcast éphémère, qui ne se perpétuera pas dans le temps, mais au moins j'espère qu'il vous laissera de très 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 beaux souvenirs. Voilà. Nouvelle douce amère, comme je le disais, mais c'était important pour moi de vous le dire, d'être honnête et transparent. Je vous retrouverai pour parler de cinéma, bien sûr, mais peut-être d'une autre façon, que soit le podcast, soit ce type de format-là. En tout cas, cette information étant donnée, on peut tranquillement ensemble continuer à vibrer de cette façon si particulière qu'on a développée au fil de ces podcasts et parler un petit peu du cinéma d'animation, parce que c'est ce thème que vous avez choisi, que vos votes ont désigné, puisque je le rappelle, le principe de Somniloque, c'est que toutes les semaines, vous votez sur Twitter et Instagram, @dexcelecinema, pour choisir le sujet de la semaine. Et c'est intéressant, bien sûr, que ce soit le cinéma d'animation qui soit entré, qui a été porté au nu par vos votes, parce que c'est évidemment l'antithèse du cinéma documentaire, qui est le thème que l'on a abordé la semaine dernière, et vous fonctionnez beaucoup par antithèse, donc je trouve ça assez intéressant, l'esprit de contradiction comme façon d'explorer un art sous tous ses aspects. Moi je trouve ça génial de voir comment est-ce que justement par cette négation-là, et c'est sur cet axe que je vais me concentrer dans cet épisode, en quoi est-ce que le cinéma d'animation est la négation même du documentaire, et en quoi justement parce qu'il est cette négation, et parce que le constat que l'on pose fait que ces deux arts coexistent, fait que ça rend le cinéma d'autant plus intéressant dans son caractère pluriel. Mais avant, il est peut-être temps, bien sûr, de remercier les gens qui me font des dons sur mon compte Patreon. Merci à vous de me soutenir, merci à vous d'avoir été là, merci à vous de continuer à être là pour me soutenir dans toutes les aventures que je peux vous proposer, que ce soit de la fiction, pour parler de cinéma ou autre. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Merci beaucoup de vos dons, ils me sont d'une très très grande utilité. Je disais l'antithèse du cinéma documentaire donc, parce que le thème que l'on a beaucoup abordé la semaine dernière, et aussi tout au long de ces podcasts, parce que c'est une thématique, vous l'avez compris, qui m'intéresse beaucoup, qui est celle de la vérité, de la réalité, de comment est-ce que une fenêtre comme le cinéma, comment est-ce qu'un médium comme le cinéma, c'est-à-dire quelque chose qui fait le lien, peut nous permettre d'atteindre la vérité, de retranscrire cette vérité, comment est-ce que la représentation peut justement s'effacer le plus possible pour incarner véritablement le sujet dont elle traite et ne pas trop se manifester dans toute son artificialité, ce qui est quelque chose que personnellement j'ai toujours eu du mal à aimer au cinéma, lorsque un film revendique à fond son caractère artificiel et qu'il traite d'un sujet à prétention réaliste. Si le film, au contraire, a une démarche purement réflexive sur son propre médium et que donc il revendique son artificialité, ça ne me pose évidemment aucun problème, mais nous sommes alors dans autre chose que la réalité d'un vécu, la réalité d'une émotion, qui est quand même ce que le cinéma cherche majoritairement à faire, à transmettre une émotion, à raconter, et peut-être qu'on peut résumer justement ce geste-là, raconter, au fait de transmettre une émotion, au fait de faire partager à travers le caractère totalement a priori fictionnel, une certaine forme de réalité, de la recréer à travers les possibilités d'un médium. Et là où justement le cinéma documentaire a ça d'intéressant, qu'il se pose la question du rôle qu'il a à jouer dans la retranscription, le cinéma d'animation, lui, ne se pose absolument pas cette question, puisque le cinéma d'animation est un pur geste de cinéma, peut-être le geste de cinéma le plus pur d'ailleurs, qui peut exister, dans le sens où, de toute évidence, de toute façon, c'est le prérequis de cette technique de cinéma, le cinéma d'animation sera de toute façon artificiel. Il sera de toute façon un objet d'art et non pas une frontière entre le réel et nous, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde un film d'animation, à aucun moment on peut se dire j'ai l'impression que c'est vrai. A contrario de certains films qui peuvent adopter une démarche naturaliste, qui peuvent travailler à un montage qui évince totalement la présence de la caméra, etc. On peut avoir ce sentiment-là lorsqu'on regarde un film filmé par une caméra, mais lorsqu'on est face à un dessin, lorsqu'on est face à une recréation, à un univers totalement artificiel, le summum même de l'artificialité qu'est le cinéma d'animation, on ne peut pas avoir cette impression-là, et pourtant, eh bien pourtant, nous vibrons quand même. Pourtant, nous aimons voir les films d'animation, et j'adore personnellement les films d'animation. D'ailleurs, certains films d'animation sont parmi mes films préférés, notamment Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki, que j'ai mis pour illustrer cet épisode, parce que c'est un film qui a été très important pour moi, qui l'est toujours, c'est un des rares films aussi qui font partie de mes films préférés, je veux dire, qui continue de me plaire au fur et à mesure que je le revois. C'est-à-dire qu'il y a certains films qui ont besoin d'être vus dans une période précise, qu'entre nous dans un état d'esprit précis. Princesse Mononoké, je peux le regarder n'importe quand et m'émerveiller, pas forcément des mêmes choses, mais m'émerveiller de la même façon à chaque visionnage. Et cette puissance-là, justement, qu'arrive à m'offrir le cinéma d'animation, c'est quelque chose que j'ai envie d'interroger ici, qu'on se demande ensemble dans cet épisode, comment se fait-il que le cinéma d'animation, qui a priori justement est l'antithèse du réel, puisqu'il l'est dans les faits, peut parvenir à faire naître chez nous des émotions aussi vivaces et aussi intenses, sans nous répéter bien sûr, puisqu'on a déjà consacré un épisode à la question de l'identification au cinéma et du mystère du fait d'être projeté. Mais je pense que dans la spécificité du cinéma d'animation, on peut peut-être trouver la réponse dans une approche plus historique, en fait, de ce rapport particulier que nous avons à l'image, parce que le cinéma d'animation, posons les bases afin de pouvoir poursuivre un petit peu le processus de notre pensée, le cinéma d'animation, c'est une image, c'est un dessin. Et même lorsque c'est animé par ordinateur, ce sont des images, simplement la méthode de dessin est différente, puisque c'est de la modélisation 3D, mais fondamentalement, il n'y a pas de différence, hormis voilà, la technologie utilisée, c'est-à-dire qu'on dessine en 3D au lieu de dessiner en 2D, mais ça reste du dessin. Et même si le processus d'assemblage des images est différent, le fondement même de ce qu'est le pictogramme de cinéma, en quelque sorte, c'est-à-dire l'image qui, multipliée par 24, donne une seconde et transmet le mouvement, reste le même. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde un petit peu l'histoire du rapport entre l'humain au sens général et l'image, c'est que notre volonté de représentation est évidemment d'abord passée par le dessin. Et là où c'est d'autant plus passionnant, c'est lorsqu'on regarde que les plus anciennes représentations imagées que nous avons, il me semble que ce sont celles des grottes préhistoriques, mais je peux me tromper, mais il me semble qu'on est quand même dans... voilà, parce que c'est ce qui a survécu au passage du temps. Dès le départ, il y avait évidemment cette volonté de représenter, c'est-à-dire d'incarner sa vie, en fait, et l'environnement qu'il y avait autour de nous, mais surtout, il y avait une volonté de rendre compte de la réalité de ce que l'on dessinait en travaillant sur le mouvement. C'est quelque chose qui est très marquant lorsqu'on étudie notamment les grottes de Lascaux, si jamais vous n'avez jamais visité, que ce soit la grotte elle-même, maintenant on ne peut plus, mais sa reproduction, c'est absolument exceptionnel de voir cet endroit parce que c'est un lieu déjà qui est porteur d'histoire, mais surtout quand on s'intéresse au cinéma, c'est un lieu qui est porteur de la naissance de toute l'importance qu'a l'image en mouvement et notre volonté d'incarnation à travers l'histoire et à quel point ça semble être au fondement même de notre espèce. Donc c'est quelque chose de très spirituel, franchement, je vous recommande vraiment d'aller visiter cet endroit si vous en avez l'occasion. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a ce rapport au mouvement. C'est qu'il y a cette volonté de recréer la réalité des choses par le dessin qui bouge, par l'incarnation d'une image qui bouge. Et c'est évidemment cette technique-là qui va se perpétuer, puisque l'invention de l'appareil photographique d'abord, puis cinématographique dans un deuxième temps, n'arrivera que bien plus tard. Et on va d'abord travailler par l'image, et on considère d'ailleurs que toutes les techniques de mouvement par le dessin, c'est-à-dire comment est-ce que, en faisant bouger certaines images, on parvient à incarner justement une réalité qu'on ne pouvait pas, en tout cas à l'époque, incarner autrement, puisqu'aujourd'hui le dessin serait presque devenu autre chose, mais on peut considérer, historiquement parlant, que le dessin est l'ancêtre de la photographie. Il y a justement, à travers des outils comme l'automatrope, par exemple, du docteur Paris, qui est commercialisé en 1825 et qui en fait est une surface plate et ronde sur lequel, d'un côté, il y a, bah, en général, c'est un oiseau, et de l'autre côté, il y a une cage. Et en fait, les deux côtés de la surface sont liés par une ficelle. Et en fait, quand on tire sur la ficelle, l'objet tourne. Et donc, on a successivement les deux dessins qui apparaissent devant nos yeux, et si on fait tourner suffisamment vite, on a l'impression que l'oiseau est dans la cage, alors qu'a priori, donc il n'y est pas, et ou qu'il peut voler, ou qu'il y a un chien qui court, qui fait un mouvement, etc. Cette volonté-là, l'invention de ce jouet, parce que c'est quelque chose qui est très très important à saisir dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire du rapport humain à l'image, c'est qu'il y a la dimension religieuse de l'incarnation par le dessin, mais que l'ancêtre du cinéma, parce qu'il y a l'obsession du mouvement, c'est d'abord le jeu. Ce sont des jouets, que ce soit donc, comme je le disais, le tomatrope, mais aussi le zootrope, qui est un petit peu plus connu parce que ça a donné son nom à une boîte de production de très grands réalisateurs américains. Je vous avoue que leur nom m'échappe là tout de suite, mais il me semble que c'est George Lucas et Francis Ford Coppola qui ont une boîte de production qui s'appelle Zoetrope, justement en hommage à cet objet qui était en fait une sorte de bol à l'intérieur duquel il y avait des dessins qui étaient peints sur la surface intérieure. Et lorsqu'on faisait tourner l'objet sur lui-même, eh ben, la superposition des dessins faisait que on avait l'impression qu'il y avait un mouvement qui se réalisait. Et il est évidemment passionnant de constater que les premières expérimentations filmiques, qui ont été elles aussi la décomposition du mouvement, à travers notamment voilà, ce fameux homme nu qui marche et qui court, qui saute, etc., ou ce fameux cheval qui est filmé en train de courir, la décomposition du mouvement est l'obsession même de notre rapport à l'image, et que, eh bien, c'est hérité du dessin. Et que la première chose que l'on a fait lorsqu'on a eu accès à l'image photographique, et donc a priori à la réalité, puisque il y a quand même un tremplin, bien sûr, hein, dans la capacité de figer le temps par rapport au fait simplement de le représenter en le dessinant, et bien pour autant on ne s'est pas éloigné de notre réflexe, et que nous avons conservé les mêmes a priori par rapport au sujet, qu'il s'agissait de le photographier ou de le dessiner. Mais ce qui est très intéressant, alors ça évidemment c'est le constat historique que l'on peut opérer avant l'invention du cinématographe, mais ce qui est très intéressant, c'est que lorsque le cinéma devient un art, justement, déjà évidemment vous vous en doutez, tout de suite il y a des films d'animation. Le premier film d'animation a priori, c'est un film de 1906 qui s'appelle Humorous Faces of Funny Faces de Jay Stuart Blackton, qui est un film d'animation dans la plus pure tradition de ce que l'on va continuer à faire ensuite. Mais ce qui est très intéressant, moi, je trouve, si on fait une analyse un petit peu comparative et que on les considère comme deux arts différents, et que l'on considère que, pareil, ben voilà, ce sont deux arts qui ont évolué, qui se sont auto-inspirés, c'est que dans la mesure où le dessin et la représentation par le dessin étaient en avance sur le cinéma, eh bien cette avance, il va continuer à l'avoir, et en fait, on a dès le départ une inventivité formelle, que ce soit dans les mouvements de caméra, dans la façon de représenter, dans les univers dépeints à l'écran du cinéma d'animation, qui tout de suite est beaucoup plus important que ce qu'est capable en fait de rendre le cinématographe en tant que tel. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours beaucoup marqué, et que je remarque comme étant un a priori lorsque je vais voir un dessin animé, un film d'animation. lorsque je vais voir ce type de film, j'ai l'envie, j'ai le besoin de voir un art qui en fait est en avance sur nous. C'est-à-dire en fait au sens où moi je m'attache justement à filmer avec une caméra, je veux voir des mondes que on n'a pas encore réussi à recréer. Je veux voir des mouvements de caméra que l'on n'a pas encore réussi à reproduire. Je veux voir justement se déployer ce monde d'imaginaire total que nous nous peinons à retranscrire et aussi peut-être que l'on n'a pas forcément la volonté de retranscrire parce que l'objectif des deux arts sont très différents. Pour le cinéma d'animation, on va beaucoup plus avoir tendance, en tout cas j'ai l'impression, à aller chercher dans quelque chose qui justement, par sa méthode créative, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de barrière, a priori dans le dessin, c'est-à-dire que c'est un art, entre guillemets, totalement libre, au contraire du cinéma qui est un art qui est plus contraint, le cinéma d'animation va déployer des trésors d'inventivité et d'imagination, et surtout, il va se constituer comme un pur objet imaginaire. C'est-à-dire qu'il va revendiquer, que ce soit par ses méthodes de narration, que ce soit par la façon d'illustrer les événements, par exemple, un truc tout bête, mais quand un personnage a une idée, on lui fait apparaître une ampoule au-dessus de la tête. Ce qui n'aurait aucun sens dans un rapport cinématographique à la même séquence filmée, mais dans le cinéma d'animation, justement parce qu'on s'affranchit de ça, en fait, on est beaucoup plus libre et comme nous affranchissons du réel, nous sommes à la fois libres dans sa représentation, mais aussi dans les moyens qui sont à nos dispositions pour le représenter. Et c'est pour moi ça, la grande force du cinéma d'animation, c'est justement d'assumer totalement son artificialité en revendiquant être un pur objet d'imaginaire et en nous donnant à voir et à vivre cet imaginaire-là. En se libérant justement du carcan réaliste que le cinématographe nous impose et qui peut évidemment, j'ai été le premier à le défendre dans mon épisode sur le documentaire, qui peut totalement être merveilleux et bouleversant aussi, mais qui est un travail très différent. C'est ça qui est fascinant dans le cinéma d'animation, c'est ça qui est bouleversant et c'est ça aussi qui le rend tout aussi intéressant malgré l'a priori jeune public auquel il se destine, hein, c'est-à-dire que je pense que cet a priori du dessin comme étant destiné aux enfants vient justement de cette tradition du fait que le dessin en mouvement était à la base un jouet. Je pense qu'il y a une perpétuation en fait de cette idée que un truc qui bouge et qui est dessiné, c'est pour les mioches, hein, que nous on a autre chose à faire, alors que justement cette frontière de l'imaginaire, elle est merveilleuse et elle est merveilleuse pour tout le monde. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise de façon négative la phrase de « Ah, tu te comportes comme un enfant » ou « Je retombe en enfance en regardant ce film », en fait, ce n'est pas du tout un commentaire négatif. Pour moi, si on l'analyse d'une autre perspective, c'est une façon d'illustrer le fait que le cinéma d'animation, justement, permet de réouvrir ces frontières de l'imaginaire qui sont très présentes lorsqu'on est enfant et qui, petit à petit, au fur et à mesure que l'on grandit, se ferment. Justement, parce que le réel s'impose à nous, c'est évident. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus on commence à être confronté à des problématiques très concrètes qu'il faut gérer, et donc on se ferme à cet espace de l'imaginaire, et c'est une erreur. C'est une erreur, bien sûr. Et pour moi, en fait, justement, ce qui est beau dans cette expression retomber en enfance, ce n'est pas qu'elle nie le potentiel que l'on a atteint en grandissant, mais qu'au contraire, elle nous réinterroge le regard que l'on posait a priori sur le monde pour l'ouvrir différemment. Et ce rapport à l'imaginaire-là, ce rapport au rêve, parce que c'est ça en fait, lorsqu'on parle de pur objet imaginaire, en fait on parle d'un rapport au rêve, et bien ce rapport-là, il est absolument essentiel d'une part de le conserver, mais surtout de le retrouver, parce que ça va nous permettre, surtout si on s'intéresse à la question de la fiction cinématographique ou à la question du documentaire, ça va nous permettre d'élargir nos perspectives. Et élargir ces perspectives cinématographiques, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et de toute façon, même si a priori ces deux arts n'ont pas grand-chose en commun, le fait d'y avoir accès tous les deux de la même façon et de les interroger de la même façon nous permet de nourrir le rapport que l'on a au réel en nous inspirant de l'imaginaire. Parce que qui sait, les inventions d'un pur imaginaire nous permettent de réinterroger le réel avec peut-être plus de précision. Parce que la dimension onirique de l'homme, elle est tout aussi importante que cette dimension phénoménologique. Nos sens nous servent autant à appréhender le monde que notre monde imaginaire, que notre monde conceptuel, que les images qui naissent dans un monde de pur esprit. Et il est important de ne pas se couper de ça, parce que aimer ces deux dimensions-là du cinéma, c'est finalement être un être humain plein. Et je trouve que c'est une belle conclusion à apporter à cet épisode. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur la question du cinéma d'animation. J'espère que ça vous a intéressé. Peut-être que c'était une approche à laquelle vous vous attendiez pas trop, je sais pas, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie donc de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous l'écoutez avant de dormir cet épisode, eh bien écoutez, faites de beaux rêves et éveillez justement votre imaginaire au processus onirique pour après l'appliquer dans les affres du monde réel. Et si vous l'écoutez en partant au travail, eh bien faites la même chose, mais à l'envers. Prenez conscience du réel qui vous entoure, de ce que le cinéma pourrait y apporter, et lorsque vous vous coucherez ce soir, vous réinterrogerez ce regard-là en le confrontant à ce que vos rêves ont à offrir. Merci à tous.